Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
On est aujourd'hui avec Gabrielle Jolicoeur, qui est orthopédagogue à Montréal et récipiendaire du prix Jacinthe 2020-2021 avec l'enseignante Nathalie Sévigny pour le projet La culture au bout des doigts. Bonjour Lucille et Gabrielle, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Dans cet épisode, Gabrielle, tu vas nous présenter un projet que tu as mis en place dans ton école en lien avec le vocabulaire.
Tout à fait.
Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà pour commencer d'où vient cet intérêt pour l'enseignement du vocabulaire?
Mais tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis orthopédagogue au Centre de services scolaires de Montréal depuis 8 ans. J'interviens présentement auprès d'élèves du 2e, 3e cycle du primaire et une proportion importante des élèves de mon école sont issus d'une immigration récente et le français est souvent une 2e ou une 3e langue pour ces élèves. En plus d'être orthopédagogue, je fais présentement des recherches pour comprendre comment aider les enseignants à développer leurs habiletés d'enseignement du vocabulaire. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amenée à m'intéresser à l'enseignement du vocabulaire? C'est les difficultés que j'ai constatées auprès de mes élèves depuis le début de ma carrière.
Et pourquoi, à ton avis, c'est si important de s'attarder à l'enseignement et aux pratiques reliées à l'enseignement du vocabulaire?
Oui, mais dans le fond, depuis le début de ma carrière, j'ai constaté que plusieurs élèves avaient un vocabulaire restreint. Les élèves avaient de la difficulté à comprendre les histoires lues, car ils ne connaissaient pas la signification de plusieurs mots. De plus, ces élèves présentaient des difficultés dans d'autres matières. Par exemple, j'ai constaté qu'un de mes élèves de 2e année, lorsqu'on lui a donné un devoir traitant des pommes, mais cet élève-là n'avait jamais été cueillir des pommes. Donc, plusieurs mots présentés dans le problème étaient inconnus pour l'élève, tels qu'un verger, un tracteur. Cet élève n'a pas été capable de réaliser son devoir. Il a eu besoin de l'accompagnement de l'adulte à l'école. J'ai constaté aussi que certains élèves éprouvent des difficultés à s'exprimer à l'oral. Certains peuvent avoir de la frustration parce qu'ils ne sont pas capables de nous dire un message clair. Compte tenu des difficultés observées, j'ai donc décidé que je devais enseigner le vocabulaire aux élèves. Mais je ne savais pas comment m'y prendre pour enseigner le vocabulaire de façon efficace.
Voici plusieurs justement liens avec les référents culturels qui sont importants à prendre en considération lorsqu'on intervient auprès de ces jeunes-ci. Peux-tu nous parler un petit peu davantage des pratiques actuelles en termes d'enseignement du vocabulaire et qu'est-ce que les enseignantes font habituellement lorsqu'elles veulent justement faire un enseignement lexical?
Alors, dans le fond, juste pour vous mettre en contexte, puisque je ne savais pas comment enseigner concrètement le vocabulaire, mais dans le fond, j'ai décidé d'aller faire des études supérieures. J'ai décidé d'aller faire une maîtrise en recherche pour apprendre comment enseigner le vocabulaire de façon efficace. Et lors de mes lectures, j'ai constaté les pratiques actuelles en termes d'enseignement du vocabulaire. Puis on a constaté que les pratiques n'étaient pas très gagnantes par rapport à l'enseignement du vocabulaire. On constate que plusieurs enseignants utilisent les listes orthographiques pour enseigner le vocabulaire. Mais il faut comprendre que les listes orthographiques travaillent l'orthographe des mots et ne travaillent pas la signification des mots. Plusieurs mots qui sont présents dans les listes orthographiques sont déjà connus par les élèves. Je vous donne un exemple. Par exemple, en 4e année, un des mots qui doivent être enseignés, c'est le mot « framboise ». Mais moi, mes élèves de 4e année connaissent très bien qu'est-ce que c'est une framboise. Alors, c'est là qu'on voit que c'est peut-être pas une bonne pratique d'utiliser les listes orthographiques pour enseigner le vocabulaire.
Oui, pour faire un peu écho à ce que tu dis, il y a les listes orthographiques ou sinon il existe aussi des guides de vocabulaire où là, pareil, ça reste une liste thématique, mais j'imagine que c'est beaucoup moins riche que ce que tu vas nous proposer comme démarche. Pareil, c'est une liste à apprendre par cœur, mais c'est décontextualisé.
Mais il faut comprendre, c'est ça, que quand on parle du vocabulaire, quand on parle un mot, mais on parle, oui, de sa forme écrite et à l'oral du mot, mais on parle aussi de la signification du mot lorsqu'on parle du vocabulaire et on parle aussi le contexte d'utilisation. C'est ça qui fait en sorte qu'on a soit un vocabulaire riche ou restreint, c'est la maîtrise de ces trois composantes-là, à quel point on les maîtrise. Alors, je me suis aussi intéressée quelles sont les autres pratiques d'enseignement du vocabulaire en ce moment. Mais on constate que beaucoup d'enseignants enseignent de façon spontanée et ponctuelle le vocabulaire. Mais moi, je faisais ça dans le passé. Alors, lorsque mes élèves me demandaient qu'est-ce que voulait signifier un mot, mais je répondais rapidement avec une définition courte. Par exemple, un élève qui me demandait bien, qu'est-ce que veut dire son, mais je pouvais répondre qu'il est peu éclairé. Mais on constate que dans le fond, nos définitions qu'on donne aux élèves, mais des fois dans nos définitions, il y a des mots aussi qui peuvent être incompris par nos élèves et souvent on ne prend pas le temps d'utiliser un support visuel aussi pour aider à la compréhension. Donc, ce n'est peut-être pas la pratique la plus efficace et on constate souvent aussi les mots qu'on explique aux élèves, mais ce n'est pas nécessairement des mots qu'on va revoir avec les élèves et pour acquérir dans le fond un vocabulaire, il est important de revoir plusieurs fois les mêmes mots dans des contextes différents.
On sait que la répétition est un facteur important. Tu nous as parlé de l'importance justement accordée à la signification des mots. J'ai entendu le mot de l'importance de prendre le temps de planifier cet enseignement. Est-ce que tu pourrais nous dire justement comment s'y prendre?
Oui, bien dans le fond, comme tu viens de dire, Christelle, c'est important que l'enseignement soit planifié pour que ça soit efficace puis les élèves, dans le fond, développent pleinement leur vocabulaire. Mais il y a une démarche d'enseignement du vocabulaire qui s'appelle l'enseignement direct du vocabulaire. Ça, dans le fond, c'est une démarche qui permet de faire un enseignement planifié. Comment ça se fait concrètement? Mais tout d'abord, il faut cibler des mots qu'on veut enseigner aux élèves. Je vous conseille d'enseigner un nombre limité de mots à la fois pour favoriser l'acquisition du vocabulaire, entre 8 à 15 mots. Il faut comprendre que les mots qu'on va cibler, il faut que ce soit des mots payants. C'est des mots qui sont inconnus par les élèves, mais donc les élèves vont pouvoir réutiliser dans différents contextes puis vont leur amener à mieux comprendre les écrits. Par exemple, si vous décidez d'enseigner le mot « tribord », bien là, vous pouvez qui est en lien avec le domaine maritime. Vous pouvez vous questionner, est-ce que ce mot-là, mes élèves vont le lire souvent dans des écrits à l'école? Est-ce qu'ils vont souvent utiliser ce mot-là à l'oral? Moi, pour ma part, mes élèves au primaire, ce n'est pas un mot que j'enseignerais. Alors, il faut vraiment prendre des mots qui vont être payants, que les élèves vont voir dans différents contextes. Puis les mots qui sont enseignés aux élèves, mais c'est souvent, dans le fond, des mots qui sont dans la littérature, qui sont à être enseignés. Alors, une fois qu'on a ciblé nos mots qu'on veut enseigner, qu'on considère inconnus pour nos élèves, bien là, il faut faire des définitions en lien avec ces mots-là. Tantôt, je vous ai expliqué que souvent, les enseignants, bon, ils disent à l'oral la signification du mot, puis il y a certains mots dans nos définitions, bien, ils peuvent être aussi inconnus pour les élèves, donc ça nuit à la compréhension. Alors, comment on fait pour bâtir des définitions efficaces? Mais premièrement, nos définitions, il faut que tous les mots dans nos définitions soient connus par les élèves, que les mots soient accessibles. Il faut aussi fournir plus d'une définition. Pourquoi je vous conseille de fournir plus d'une définition? C'est que des fois, si votre première définition n'est pas comprise par certains élèves, mais avec une deuxième définition, ça va faciliter la compréhension. Qu'est-ce qui peut nous aider à bâtir des définitions efficaces? Bien, on peut regarder dans le dictionnaire. Je ne vous conseille pas de prendre la définition du dictionnaire parce que le problème dans la définition du dictionnaire, il y a beaucoup de mots inconnus par les élèves, sauf que ça peut nous inspirer, ça peut nous rappeler c'est quoi la bonne signification du mot. Une fois qu'on a bâti nos définitions, c'est le temps qu'on enseigne le vocabulaire aux élèves. Pour l'enseigner, je vous conseille d'utiliser la littérature jeunesse. Pourquoi? Parce que la littérature jeunesse, lors de l'enseignement du vocabulaire, ça nous permet d'avoir un contexte riche de sens et authentique. Alors, les mots qu'on peut utiliser, les mots qui sont dans la littérature jeunesse, et pendant la lecture d'une œuvre, bien, on va expliquer la signification des mots aux élèves. C'est important de ne pas questionner les élèves pendant la lecture d'une œuvre. Pourquoi? Parce que dans le fond, les élèves peuvent nous donner une explication erronée ou encore leur explication peut manquer de précision. Par exemple, si on demande à un élève dans un livre qu'on lit, qu'est-ce que signifie le mot « bois ». Mais le bois, ça peut être une forêt, mais le bois peut faire aussi référence à une bûche. Alors, si dans notre livre, le bois fait référence à la forêt, mais un élève qui nous dit « Ah oui, madame, je sais qu'est-ce que c'est un bois, c'est une bûche. » Alors, ça peut mélanger les élèves. Et aussi, en effet, les élèves peuvent utiliser des termes peu précis. Par exemple, si j'en viens avec le mot « bois » qui en fait référence à une forêt, bien, quelqu'un peut dire « Ah, bois, c'est quelque chose à l'extérieur, mais il me semble on y va. » Comme je vous dis, ça peut manquer de précision.
Gabrielle, par rapport à ce que tu dis, donc lors de la lecture d'un album, on dit souvent de lire au moins pour une première fois pour découvrir une œuvre ou pour le plaisir, puis avant même de s'attarder sur ses aspects lexicaux et tout. Donc, j'imagine un petit peu le conseil que tu viens de partager, c'est dans le même ordre d'idée, de ne pas interrompre une lecture pour aller questionner, surtout pas lors d'une première lecture, lors d'une découverte d'une œuvre.
Oui, on peut faire un parallèle, mais par exemple, si on fait une lecture interactive, on va avoir tendance à interrompre pendant la lecture, à poser des questions. Mais le but vraiment dans ce contexte-ci, c'est pas amener une conception erronée du mot.
Moi, j'ai une question par rapport à ça. Si, mettons, notre intention, c'est de travailler les stratégies de lecture face à un nouveau mot, est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire comme une stratégie de découverte? Allez-y, vous, selon... telle stratégie selon le contexte, selon la morphologie, puis après ça, on les corrige, ou c'est sûr qu'on peut aussi modéliser, qu'est-ce que...
Bien, le problème avec les stratégies de lecture, ce n'est pas toujours une approche gagnante en termes d'apprendre la signification d'un mot, parce que des fois, les stratégies de lecture ne fonctionnent pas pour comprendre la signification d'un mot. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma maison, il y a plusieurs pièces, dont deux chambres à coucher, et il y a un énorme grenier. Et là, je demande aux élèves, qu'est-ce que c'est un grenier? Alors, les élèves vont peut-être nous répondre, bien, c'est une pièce de la maison. Oui, mais qu'est-ce que c'est un grenier? Y a-t-il une stratégie de lecture qu'on peut utiliser pour comprendre qu'est-ce qu'un grenier? Il n'y a aucune stratégie de lecture qui peut donner assez d'informations pour comprendre la signification d'un grenier. On peut inférer que c'est une pièce de la maison, mais ça va s'arrêter à ça. Je ne saurais pas que le grenier, ça se trouve dans la partie supérieure de la maison. Alors, c'est là qu'on voit que si on utilise des stratégies de lecture, ce n'est pas toujours efficace pour développer le vocabulaire de nos élèves et c'est vraiment pertinent, dans le fond, de nous planifier, dans le fond, des définitions en lien avec les mots ciblés et prendre le temps de les expliquer aux élèves. Et pour, dans le fond, pour acquérir le vocabulaire, il est important, dans le fond, de revoir le mot souvent, de voir au moins le mot à 10 reprises. Et pour amener les élèves à voir le mot souvent, mais dans le fond, il faut faire des activités de réinvestissement, il faut faire des activités qui vont permettre de retravailler le mot. Puis les activités, dans le fond, il faut qu'ils travaillent tant l'aspect réceptif que productif. Et lorsqu'on fait des activités de réinvestissement, c'est pas obligé des activités qui vont durer des heures. Parce qu'il faut comprendre puisqu'il faut revoir le mot à plusieurs reprises, bien, je conseille vraiment de faire des courtes activités qui peuvent durer quelques minutes, qui peuvent être faites pendant des périodes de transition. Par exemple, vous pouvez montrer une image au tableau, puis là, vous dites aux élèves, est-ce que tu peux me faire une phrase avec un des mots qu'on a ciblés aujourd'hui?
De façon plus courte, mais fréquente.
Exactement. Il faut comprendre aussi, en lien avec nos activités de réinvestissement, avant de commencer aussi de faire nos activités de réinvestissement, c'est important de garder des traces des mots qu'on va voir enseignés aux élèves. Comment on fait pour garder des traces efficaces? Bien, il y a différentes façons. Par exemple, vous pouvez faire un mur de mots dans la classe avec les mots ciblés. Les élèves peuvent avoir aussi un petit cahier avec les mots et les définitions qui sont écrites. Il peut y avoir des dessins qui sont réalisés par les élèves aussi pour favoriser la compréhension des mots.
C'est tellement un beau volet de justement impliquer les élèves dans tout ce processus-là, plutôt que ce soit des mots juste imprimés, mettons, mais que l'élève soit à la tâche puis que lui-même construise, aide à faire ce mur de mots.
Parce que par expérience, comme je vous ai dit au début de l'entrevue, j'accompagne des enseignants à mon école et je donne des formations aussi au Centre de services scolaires de Montréal sur l'enseignement du vocabulaire. Et j'ai eu la chance d'observer des enseignants qui faisaient produire... aux élèves, dans le fond, c'est les élèves qu'eux écrivaient leurs définitions et avec les mots ciblés et d'autres enseignants, par exemple, qui auraient donné une feuille déjà avec les mots écrits avec les définitions et on voit vraiment ça favorise davantage l'acquisition du vocabulaire lorsque les élèves participent à la consolidation des traces.
Ça me rappelle aussi À un moment donné, j'ai aidé les élèves justement dans l'acquisition du vocabulaire. Ça faisait partie d'une de mes tâches. Et avant qu'on quitte mon local, bon, je prenais la littérature jeunesse et j'avais ciblé, comme tu disais, moi, c'était juste 4 mots, 4, 5 mots. Et peut-être j'aurais dû pousser plus, mais en tout cas, dans le contexte, c'était ça. Et à chaque fois qu'avant de sortir, je leur remontrais l'image, puis je devais me faire une phrase dans ce contexte-là. Donc, je me dis que même une enseignante aussi, elle peut faire ça avant de partir à la récréation. Peut-être tu parlais de période de transition, ça peut être sous forme de jeu comme ça, et ça peut être assez drôle.
Puis il faut comprendre aussi que certains enseignants peuvent se dire oui, mais pourquoi les élèves, dans le fond, ils peuvent développer leur vocabulaire en lisant des livres, ils peuvent développer leur vocabulaire en échangeant avec les autres élèves, mais il faut comprendre qu'il y a juste 5 à 15 % des mots qui vont être acquis par les élèves de façon incidente. Pourquoi? Parce que dans le fond, les élèves n'auront pas vu assez souvent les mots, ou par exemple, quand on pense à l'oral, le vocabulaire utilisé par les élèves n'est pas nécessairement un vocabulaire soutenu. Ce n'est pas nécessairement le vocabulaire qui est présenté dans la littérature. Et les élèves à l'école, ben, eux, ils doivent comprendre, dans le fond, le vocabulaire présenté dans la littérature. Par exemple, le mot s'exclama, c'est un mot qu'on voit beaucoup à l'écrit, mais à l'oral, honnêtement, plusieurs enfants n'ont pas tendance à l'utiliser.
Peut-être plutôt rare. Et Gabrielle, si je nous ramène, tu nous parlais de comment s'y prendre pour enseigner explicitement le vocabulaire. Tu nous as mentionné donc quelques différentes pistes. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? J'ai comme une question à te poser à la suite de ça.
Oui, bien, dans le fond, pour enseigner le vocabulaire, bon, c'est important de ne pas se mettre de pression. On cible un petit nombre de mots à la fois, puis on fait des activités de réinvestissement, bon, qui nous allument, qu'on a envie de faire. Et je favorise vraiment le travail collaboratif pour l'enseignement du vocabulaire. Moi, dans le fond, j'enseigne le vocabulaire avec les enseignants de mon école, mais qu'est-ce qui est pertinent de travailler en collaboration? C'est qu'on échange ensemble sur, bon, OK, j'ai produit une définition du mot. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, tu dis, ah, tu réfléchis, OK, peut-être le mot que tu as choisi ne sera pas compris par les élèves. Puis c'est aussi intéressant même pour le choix des mots. Des fois, on choisit des mots dans les livres, puis on ne se rend pas compte, bon, est-ce que les élèves vont vraiment utiliser ce mot-là dans la vie de tous les jours? Puis on se questionne des fois ensemble, puis on dit, ah, mais peut-être pas ce mot-là. Ça permet vraiment, dans le fond, de réfléchir à nos pratiques, puis ça permet, dans le fond, des échanges vraiment riches.
Tellement contente que la collaboration aussi fait partie. Donc, que tu le nommes, c'est un facteur vraiment essentiel. Ma question suivante était donc, en fait, comment les orthopédagogues peuvent soutenir leurs collègues enseignants dans ce processus pour acquérir des pratiques d'enseignement du vocabulaire?
Mais il faut comprendre que pour acquérir, dans le fond, le vocabulaire, ça se passe en premier à l'école. C'est à l'école le meilleur endroit pour développer le vocabulaire parce que c'est là, c'est à l'endroit où les élèves vont être le plus exposés à la littérature. Et le rôle de l'orthopédagogue, ça serait de soutenir les enseignants en classe parce que c'est une pratique gagnante pour l'ensemble des élèves. Et comment il peut soutenir les enseignants? Bien, premièrement, lorsqu'on est au fait avec la démarche pour enseigner le vocabulaire, bien, on peut servir de modèle pour les enseignants. À beaucoup d'enseignants, j'ai expliqué, bon, on ne questionne pas pendant la lecture, planifier des courtes activités de réinvestissement, mais des fois, quand on l'a pas vu comment on peut le faire, mais on a tendance à faire certaines erreurs comme planifier des activités qui sont assez longues. Puis là, des fois, ça fait en sorte qu'on est découragé. On dit, OK, il faut que je planifie 4-5 activités pour revoir les mots, mais là, ça me prend chaque fois 1 heure et là, je manque de temps. Fait que c'est là, en tant qu'orthopédagogue, on peut servir de modèle pour les enseignants, puis aussi arriver à proposer, dans le fond, des activités qui vont être adaptées au groupe. Puis on sait aussi que nos élèves en difficulté, c'est souvent eux qui ont besoin le plus de développer le vocabulaire. Parce que je vais vous parler de l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, dans le fond, qu'est-ce qu'on sait avec l'effet de Mathieu? C'est dans le fond, plus les élèves ont un vocabulaire riche, plus ils vont apprendre des nouveaux mots parce qu'ils vont être capables de faire des liens. Et au contraire, plus les élèves qui ont un vocabulaire pauvre, plus ça va être difficile pour eux de développer le vocabulaire. Puis si on ne prend pas le temps d'enseigner le vocabulaire, bien, cet écart-là va s'accentuer. Puis commence vraiment à voir des écarts à partir de la troisième année, l'année à laquelle où la compréhension prend davantage d'importance.
Nos orthopédagogues, justement, peuvent être outillés à intervenir à plusieurs égards. Est-ce que, plutôt au tout début de l'épisode, je parlais du prix que tu avais gagné avec une collègue, donc un projet d'enseignement du vocabulaire à partir de la littérature jeunesse qui s'intitule « La culture au bout des doigts ». Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
Moi, dans le fond, j'ai toujours été passionnée par les milieux multiculturels. C'est pour ça que j'enseigne à Montréal présentement. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'orthopédagogue, je ne connaissais pas beaucoup sur la culture des élèves. Et j'ai décidé avec ma collègue, j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas un projet qui nous permettrait, dans le fond, de connaître les différentes cultures? Ça serait un bon moment de partage. Et pourquoi on n'intégrerait pas l'enseignement du vocabulaire dans notre projet? Et là, l'enseignante a tout de suite embarqué avec moi dans l'idée. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait comme projet? C'est qu'on a présenté aux deux semaines un livre parlant d'une culture ciblée. Et dans les livres, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait? On lisait l'histoire, puis on sortait aussi, on apprenait aux enfants, c'est quoi la culture? Qu'est-ce que ça pourrait être un élément culturel? Ça peut être un mets, ça peut être un habillement. Fait qu'on a eu beaucoup de discussions avec les élèves chaque fois qu'on lisait un livre sur les éléments culturels qui étaient présentés dans le livre. Mais la lecture, dans le fond, vu que la littérature jeunesse, ça nous permet, dans le fond, vraiment d'enseigner le vocabulaire parce que c'est un contexte riche de sens, mais on ciblait des mots qu'on voulait enseigner. Il faut comprendre que les mots qu'on voulait enseigner n'étaient pas nécessairement des mots en lien avec la culture, parce que ce n'était pas tout le temps des mots qui seraient payants. Par exemple, kimono. Est-ce que mes élèves vont utiliser souvent kimono dans la vie de tous les jours? Je ne suis pas certaine. Fait qu'on prenait des mots que les élèves allaient pouvoir réutiliser dans leur quotidien. Alors, on a présenté les livres, on a parlé de la culture avec les élèves et on a fait différentes activités de réinvestissement après. Puis, une activité de réinvestissement qu'on a refaite après la lecture de chaque livre, c'était l'écriture d'une courte scénette. Dans la courte scénette, on voulait chaque fois que les élèves réutilisent les mots qu'ils avaient appris et on voulait aussi qu'ils intègrent des éléments culturels. Alors, au fil des semaines, dans le fond, les élèves ont développé leur vocabulaire, ils ont appris quelques mots après chaque lecture et on a fait un projet intégrateur. Notre projet intégrateur était, dans le fond, que les élèves, ils devaient, eux, bâtir leur cernet par rapport à leur culture par rapport à leur culture. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans une équipe, on a différentes cultures. Ils devaient insérer les différents éléments culturels dans leur scénette. Il faut comprendre que présenter, dans le fond, des livres qui traitent de différentes cultures, ça a vraiment un impact positif sur les élèves. Parce que en présentant leur culture, dans le fond, ça favorise leur estime de soi. Et en présentant une culture différente, bien, ça favorise une compréhension approfondie et une plus grande acceptation des autres. Alors, lors du projet intégrateur, les élèves ont été capables de mettre différents éléments culturels, mais ils ont été capables aussi de réutiliser les mots qui ont été enseignés au cours des différentes semaines. Et finalement, une fois que leurs scénettes ont été créées, bien, les élèves, on a fait une vidéo de leurs scénettes.
Et je suis allée voir justement les scénettes, les vidéos et le projet pour les personnes qui nous écoutent. Je vais mettre le lien vers le site que vous avez créé et tout dans le descriptif de l'épisode. J'imagine tellement l'impact que ça a dû avoir sur les élèves, juste par l'aspect de représentativité, de voir une partie de leur identité présente et discutée. Merci, Gabrielle, pour ce partage. Mais justement, ce qui nous amène déjà à la fin de notre épisode, j'aimerais vraiment te remercier pour ton temps et les pistes partagées, Gabrielle, en lien avec l'enseignement du vocabulaire. Moi-même, je me prenais des notes. J'imagine que les personnes qui nous écoutent peut-être même validé des choses déjà mises en place, parce que ça également, c'est important, puis sinon de nouvelles choses à tester dans leur classe avec leurs collègues. Merci, Gabrielle.
Mais merci.
Le balado micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle L. Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.